sentiments. On passe une excellente soirée.
Pour assister à l'enregistrement du prochain Masque et la Plume, rendez-vous demain dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter présente Tétro, le nouveau film de Francis Ford Coppola, actuellement au cinéma. Chaque famille a ses secrets. Tétro a quitté la sienne il y a 10 ans et s'est exilé en Argentine. L'arrivée à Buenos Aires de son jeune frère Benny fait remonter à la surface des secrets de famille jusqu'ici bien enfouis. Retrouvez Tétro de Francis Ford Coppola dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter.
La différence.
15h04 sur Inter, restez avec nous, c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Salut Daniel et bonne année à toi et bonne année à toute ton équipe. Bah écoute Daniel, je voulais te dire qu'en ce début d'année 2010 que t'étais bien ringard et que tous tes messages sur ton répondeur c'était bien ringard parce que sur Canal+, tu vois, Jean-Michel Apathy là dans son émission du soir, ben lui quand il reçoit des messages sur son téléphone portable, il reçoit des SMS, et ben c'est pas des téléspectateurs ringards qui lui envoient des SMS, tu vois. Là il était en train de parler de l'âge de la retraite, pourquoi 60 ans, 65 ans, bref, et il est tout fier de nous annoncer qu'il vient de recevoir un SMS de François Fillon, voilà, qui lui dit qu'il avait fait une erreur de date, et donc il était tout sourire de recevoir un SMS de François Fillon. Eh bien écoute, moi je trouve ça formidable, parce qu'au moins il avoue que monsieur François Fillon a donc le téléphone portable de Jean-Michel Apathy, et peut le joindre à tout moment. Voilà, donc il est en train de faire la preuve de son indépendance devant des millions de gens. Bah écoute, j'espère que dans l'année 2010, on va avoir des messages comme ça du gouvernement sur ton répondeur. Ça serait sympa parce que ça a l'air très 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 tendance. Et plutôt que tous ces inconnus qui dévoilent même pas tous leur identité, ça serait vraiment sympa d'avoir Frédéric Lefebvre, Christine Lagarde qui nous laisse des messages pour te remettre un peu dans le droit chemin et revoir un peu tes émissions. Voilà, allez, salut et bonne émission.
Daniel Mermet, je te remercie, c'est David de l'Aveyron, je viens d'écouter ton reportage sur le communisme en Inde. Merci pour ce reportage, pour cette ouverture que tu nous donnes. Merci Daniel, continue le combat, on est avec toi, au revoir.
Eh ben voilà, salut à tous, je suis vraiment content. Et on peut enfin se souhaiter une bonne année grâce à une bonne nouvelle, parce que les 94 millions de vaccins qu'on a commandé et qui reste en rade, eh bien, c'est grâce au principe de précaution. Alors ça, c'est la nouvelle. Donc, grâce au principe de précaution, maintenant, les OGM et surtout le nucléaire, c'est fini. On n'en parlera plus. Principe de précaution, merci. Allez, salut à tous et bonne année.
EDF vous demande de lever le pied. EDF vous demande de lever le pied. Le nucléaire ne va pas bien en France. Le nucléaire ne va pas bien en France.
Oui, bonjour, Miguel, conducteur d'engin dans l'Isère. Voilà, j'ai entendu ce matin à la radio un sondage comme quoi c'était en France qui faisait le plus bon vivre, donc ce serait peut-être un peu temps d'arrêter de se plaindre pour un oui, pour un non, de faire des grèves préventives, ou voilà quoi. On va peut-être voir un peu la chance qu'on a d'habiter dans un pays pareil, qui n'est pas parfait, c'est clair, il y a encore du boulot, je suis bien d'accord. Mais voilà, ce serait peut-être un peu bien de s'en rendre compte de temps en temps. Bonne journée à vous et bonne année. Au revoir.
Si au lieu de vous laisser abrutir par votre télé, vous veniez au repère de Metz, au Café de la Renaissance à 18h ce mercredi, chacun pourra donner son avis sur le partage des richesses en France. C'est le thème choisi pour ce soir, voilà.
Ouais Daniel, j'ai bien aimé ta remarque sur les gens qui appellent en masse pour dire qu'ils ont envie de migrer. Moi, je vais te dire un truc, je suis parti en Pologne là pendant une semaine, et le Pologne c'est zen, et c'est un pays en pleine construction. Vous apprenez le polonais, vous apprenez l'anglais, vous pouvez faire ce que vous voulez en Pologne. Et c'est la vie, elle est 3 fois moins chère. La Pologne est un pays à découvrir, car en 2012, il va y avoir l'euro de foot. Et ils sont en pleine reconstruction, les trains, tout. Moi, je vous conseille ce pays.
Merci, chers AMG, pour tous ces messages. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire de la grippe H1N1. revenir, c'est-à-dire à une émission que nous avions présentée le 24 novembre dernier concernant ce sujet. Vous savez, aujourd'hui, on accuse quand même pas mal les médias d'avoir été trop anxiogènes, d'avoir trop poussé à la vaccination. C'était pas le cas de tout le monde et c'était pas le cas de là-bas si j'y suis. Pour ceux, et il y en a qui n'ont rien compris ou qui n'ont pas suivi cette histoire, voici un bref résumé. Au début de l'été 2009, face au risque de pandémie de la grippe H1N1, le gouvernement commande 94 millions de doses de vaccins pour un total estimé à 869 millions d'euros. Au 4 janvier 2010, seulement 4,5 millions de Français ont été vaccinés. C'est le plus faible taux de vaccination des pays développés. Au 29 décembre dernier, selon l'Institut de veille sanitaire, la grippe A avait provoqué à peine 200 décès en France. Au total, la grippe A a fait 12 200 victimes à travers le monde, dont 10 000 aux États-Unis. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il faut rappeler que la grippe saisonnière normale fait entre 2 000 et 6 000 victimes par an en France et 600 000 victimes à travers le monde. Sur les 94 millions de doses commandées par le gouvernement, 50 millions de doses ne sont pas encore livrées. Le gouvernement, vous le savez, cherche donc à résilier ses commandes. Reste 40 millions de doses livrées. Vous me suivez, j'espère. Reste 40 millions de doses livrées. La date de péremption approche et le ministère de la Santé s'empresse de solder ce stock. On dit que l'Égypte aurait acheté 2 millions de doses, mais il en reste encore beaucoup sur les bras de Madame Bachelot. Concernant les résiliations, on pensait que c'était fait, que ça posait pas de problème. On voit évidemment que les 4 laboratoires concernés n'ont pas du tout envie de résilier l'affaire comme ça. Les contrats ont été signés et ils demandent des indemnisations. Selon un récent, tout récent rapport sénatorial, le coût total de cette affaire pourrait atteindre 2 milliards 200 millions au total. On a parlé de ces 869 millions pour l'achat des doses, mais il y a beaucoup d'autres dépenses. Le Tamiflu, les masques, la publicité, la campagne, etc. Bref, 2 milliards 200 millions au total d'après ce rapport sénatorial. Il faut rappeler, par comparaison, que le plan anti-cancer en France, c'est 650 millions d'euros et que le cancer en France tue 150 000 personnes. Pourquoi un tel gâchis? C'est une question qu'on peut se poser. La pression des laboratoires par les professionnels de l'influence, point d'interrogation. Les pressions exercées sur le gouvernement, victime consentante, point d'interrogation. Et puis une campagne tout de même assez anxiogène pour écouler les stocks. Autant de questions auxquelles répondra peut-être là-bas si j'y suis aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Fabien. Bonne année à toute l'équipe de Daniel Mermet. Je vous appelle pour vous dire que le repère de grâce aura lieu ce soir, mercredi 6 janvier. Et on parlera de droits et devoirs au travail. Voilà, donc si vous avez des choses à nous dire et qui concernent le travail, les rapports salariés-patrons, la précarisation, l'individualisation des tâches, ben vous êtes le bienvenu pour un petit débat sympathique au Cybermouton à Grasse ce soir à 18h. Ciao, bye bye, portez-vous bien.
Bonjour, là-bas, j'y suis, toute l'équipe, les auditeurs. Et comme c'est la période des vœux, et bien en fait, il y a une seule personne cette année à qui je ne peux pas souhaiter la bonne année. C'est notre président de la République. Parce que quand lui et ses copains pensent une bonne année, ben, y a plus de 60 millions de Français qui en pensent une mauvaise. On va mettre face à face deux chiffres. À droite, les quelques centaines de milliards d'euros qui ont été balancés dans un système bancaire pourri pour le maintenir coûte que coûte. Et en face, les misérables centimes d'euros qui ont été accordés de mauvaise grâce sur le SMIG horaire. Je ne peux pas trouver ça normal. Je sais que c'est pas bien de pas souhaiter de bonne année à tout le monde. Mais là, je ne peux pas souhaiter une bonne année à ce système-là parce que c'est une trop mauvaise année pour nous.
Donc pour tous les autres, pour la France qui travaille, et la France qui travaille, c'est tous les gens qui travaillent en France, quelles que soient leurs origines, leur âge, leur sexe, leur provenance, eh ben je souhaite une bonne année, gardez courage, et puis demain sera un autre jour. Je vous embrasse.
Salut. Pour l'année 2010, nous ne vous souhaitons pas de produire un bon paquet de gaz carbonique et de déchets nucléaires en vous remplissant la panse d'une overdose de produits chimiques toxiques, bien emballés dans une abondance de plastique exotique, tout en vous abreuvant à l'enivrante propagande des publicistes, journalistes, amuseurs publics et autres responsables politiques. Mais, surtout si vous habitez dans le Roussillon, nous vous souhaitons de passer au Café Repère de Perpignan, qui a lieu au Lisboa, Place Rigaud, le premier jeudi du mois, à partir de 18h30.
Salut Daniel, c'est Antonin de Saint-Chamond dans la Loire. Je voudrais te mettre au courant de ce qui se passe dans la vallée du Gier. La vallée du Gier est une vallée qui va en gros de Saint-Étienne jusqu'à Givors au sud de Lyon. Cette vallée est le siège d'un savoir-faire industriel important lié à la métallurgie. En effet, les activités métallurgiques ont plus de 200 ans d'histoire ici. Après la désindustrialisation dure des années 80, il restait quelques brillants éléments possesseurs d'un savoir-faire remarquable. Mavilor, champion mondial des vilebrequins, et Clessim, dernier grand bureau d'études français pour l'industrie métallurgique. Au fil des rachats successifs, ces deux sociétés sont maintenant aux mains de deux groupes allemands, Krupp pour Mavilor et Siemens pour Clessim. Krupp a laissé mourir Mavilor en transférant ailleurs les activités rentables, et Siemens est en train de faire la même chose à Clessim. À ce jour, la direction allemande de Clessim prévoit de supprimer 274 des 630 postes, soit 40% de réduction d'effectifs, et ceci malgré un bénéfice pour Siemens de 6 milliards d'euros en 2009. La vallée du Gier est en train de devenir un désert d'emploi, et les salariés de Clessim se battent contre ce plan mortifère qui amènera à la fermeture finale de l'entreprise dans 2 ou 3 ans. Je lance un appel à tes auditeurs pour qu'ils nous apportent leur soutien en visitant et en laissant des commentaires sur notre site web et notre blog. Pour nous trouver, c'est facile. Il suffit de chercher Intersyndical Siemens sur Google ou d'aller à l'adresse siemens-loire.com. Merci Daniel pour tes émissions qui montrent que la lutte des petits contre les riches financiers est toujours d'actualité.
Les laboratoires pharmaceutiques font toujours du lobbying pour que les campagnes de vaccination soient massives. Ce qui, globalement, est un contresens en termes de santé publique, puisque c'est beaucoup plus coûteux et même inefficace par rapport à ce que pourraient être des campagnes de vaccination ciblées.
On peut se demander si, dans ce domaine-là, il ne s'agit pas de mettre en œuvre une politique visant à maintenir la santé de l'industrie pharmaceutique beaucoup plus que la santé des Français.
Pour vous donner une idée sur l'importance économique des labos pharmaceutiques, en préparant mon enquête sur les labos pharmaceutiques, j'ai été invité à Matignon. Et on m'a expliqué, en gros, qu'en enquêtant sur les labos pharmaceutiques, ce qui était très courageux et très sympathique, je m'attaquais à la montagne d'argent, Dixit, j'ouvre les guillemets, à la montagne d'argent sur laquelle nous sommes tous assis, à droite comme à gauche.
Tous les parlementaires ont reçu un livre de référence où on a tous les référents sur la santé au sein des ministères. Donc vous avez ce trombinoscope, si je puis dire, hein, où il y a Madame Bachelot, ministre de la Santé. Et quand vous fermez ce petit livret, donc envoyé par le ministère, vous trouvez le logo d'un laboratoire.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, si j'y suis avec Pascal Le, Pascal Riello et François Ruffin, l'alibi des lobbies.
Flight number 2, arriving from New
York. Martin Winkler, bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes écrivain et vous étiez chroniqueur sur France Inter. Vous vivez aujourd'hui donc au Québec, où vous êtes chercheur à l'Université de Montréal. Alors, aujourd'hui, si vous deviez faire justement une chronique sur la grippe A, est-ce que vous seriez pour la vaccination ?
Ah bah non, j'aurais fait exactement ce que j'ai fait l'année où j'étais à France Inter et où il y avait le SARS, vous savez, cette maladie infectieuse qui a fait très très peur. Je suis allé sur le site de l'OMS, sur lequel on relevait tous les cas de décès dus au SARS. Et j'avais fait une chronique disant, ben, on va peut-être se calmer avec le SARS parce que, à l'heure actuelle, il y avait, au moment où j'écrivais, il y avait 1400 cas de SARS dans le monde et 150 décès dans le monde. Et là, j'ai fait la même chose il n'y a pas très longtemps au sujet de la grippe sur mon blog. C'est-à-dire que j'en avais assez d'entendre parler d'une pandémie qui allait tuer des millions de personnes. Je suis allé suivre les chiffres de l'OMS, puisque c'est l'OMS qui a tiré le signal d'alarme. Mais maintenant que la pandémie est terminée dans l'hémisphère sud, on sait que, par exemple, dans l'hémisphère sud, et en particulier dans les pays où on relève les cas de grippe de façon très pointue, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on sait que la grippe H1N1 a tué moins de monde que la grippe saisonnière n'en a tué l'an dernier. Par conséquent, c'est un virus qui est certes très contagieux, qui certes touche des gens plutôt jeunes parce qu'ils ne sont pas encore immunisés, mais elle tue moins. Alors, il n'y a pas de raison, véritablement, à partir du moment où on ne vaccine pas tout le monde contre la grippe saisonnière, de vacciner toute la planète contre un virus qui tue moins que la grippe saisonnière. Mais il y a une crainte qui a été entretenue, et on voit très bien qu'elle a été entretenue, puisqu'on a eu droit successivement au SARS, on a eu droit à la grippe aviaire, et maintenant on a droit à la grippe H1N1, pour suggérer au gouvernement des pays développés d'implanter des usines de fabrication de vaccins et de préparer des vaccins contre ces maladies hypothétiques qui allaient massacrer l'humanité. Et vous commandez des vaccins sur la foi de quoi ? Sur la foi d'un certain nombre d'experts qui sont à 95% des experts qui émargent sur les bulletins de salaire de l'industrie pharmaceutique et qui donc ont intérêt à vous dire « Ah bah oui, vous savez, ça peut être dangereux, il faut protéger vos populations ».
Mais là, Martin Winkler, vous savez qu'il y a une liste noire, il y a le docteur Girard, il y a le professeur Debré, il y a vous maintenant. Si jamais la grippe A fait 1 million de morts cet hiver, finalement, on vous poursuivra pour crime contre l'humanité.
Bah, je prends pas trop de risques parce que je vois pas pourquoi la grippe A ferait plus de morts, encore une fois, en France qu'elle n'en a fait en Australie. Ce sont des pays développés du même style. Auquel en ferait au Brésil, parce que au Brésil, je sais pas si vous savez, mais il y a eu des grippes dans les favelas, on n'a pas entendu dire qu'il y avait des millions de morts dans les favelas, parce que ça se serait su. Il n'y a pas eu de millions de morts en Chine ou en Inde. Et puis, eh ben finalement, eux, ils n'avaient pas de vaccin, ben les gens ne sont pas morts. Enfin, il y a eu des morts, bien entendu, parce que toutes les maladies infectieuses peuvent tuer des gens. Quand bien même, ce serait une maladie qui serait aussi grave ou un peu plus grave que la grippe saisonnière. Ça ne justifierait pas les circonstances dans lesquelles on a autorisé la commercialisation des vaccins en dépit de toutes les précautions de fabrication habituelles.
Ça...
Il y a des choses dont on peut être fier quand on est français, qu'on est sensible au record dont nous sommes capables. Une chose dont nous pouvons nous enorgueillir, c'est notre consommation de médicaments. Nous battons des records au niveau européen dans ce domaine. Pourquoi nos enfants avalent-ils dès leur naissance des produits pharmaceutiques en surnombre et parfois même fortement déconseillés par l'OMS? Pourquoi les personnes âgées vivant dans notre pays sont-elles soumises au même gavage? Des observateurs de la santé se posent ces questions depuis longtemps et répètent qu'il faudra bien un jour que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur les raisons de cette spécificité française. Voilà quelque chose qui est lié à l'identité française, si on veut bien faire un rapprochement. D'autant que nous ne sommes pas plus malades que des Australiens, des Norvégiens ou des Sud-Américains. Et les réponses existent pourtant. Elles sont connues et l'on peut même les regrouper sans mal. Il suffit de le vouloir et de ne pas être sujet au vertige. Leur liste, la liste de ces réponses, ressemble en effet à un escalier, un peu dissuasif, mais on voit mieux les choses d'en haut. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Une vision panoramique permet de comprendre les liens qui organisent le paysage. On découvre alors que, contrairement à une tendance commune qui impute la faute aux usagers du système de santé, comme toujours, les raisons de cette surconsommation tiennent largement aux stratégies d'influence des firmes. Les professionnels de l'influence sont là sans qu'il y ait, je l'ai dit en commençant, complot, comme l'expliquait le docteur Winkler, Martin Winkler, et comme vont nous l'expliquer d'autres intervenants à la faveur de ces questions que nous nous posons sur cette grippe A et le vaccin, les vaccins pour lutter contre cette grippe. Influence professionnelle de l'influence, c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
On a connu la grippe aviaire, le nez qui coulait le front chaud. On On a connu l'année dernière la grippe ordinaire qui vous rend malo. On sait que la grippe espagnole, il y a 100 ans, nous décimait. Bien plus encore que la vérole, le monde à genoux s'est désespéré. Mais aujourd'hui, c'est le cochon de Mexico qui nous poursuit en avion et même en bateau. Si l'on vous met en quarantaine en arrivant d'un pays chaud, pour pouvoir sortir indemne, faudra plus qu'une verveine pour pas finir au frigo. Tamiflu, Tamiflu, seulement sur ordonnance, oui. La pandémie court et les laboratoires se tirent la bourre. Tamiflu, Tamiflu, dans la file d'attente, oui. On piquera tous les jours sans oublier Kouchner et les yogourts. Tamiflu, Tamiflu, Tamiflu.
Bon, Daniel, je vais t'expliquer le reportage aujourd'hui. Alors bon, t'entends, on s'ennuie au bureau, hein, même à la basse, j'y suis. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais regardé la biographie de Roselyne Bachelot. J'ai tapé Bachelot sur Google. J'ai regardé dans Wikipédia. Et je suis tombé sur cette information. Sur l'information qui est que, attends, elle était déléguée à l'information médicale, laboratoire ICI Pharma, de 1969 à 1967. Donc elle travaillait pour le laboratoire ICI Pharma. Puis elle était chargée des relations publiques chez Sogi Pharm, un autre laboratoire pharmaceutique, de 1984 à 1989. Donc je suis tombé sur cette info sur Wikipédia, et puis ensuite j'étais vérifié, c'est encore dans son CV, son vieux CV, que lorsqu'elle était au Parlement européen, en 2004. Là où il y a un mystère, c'est que quand elle devient ministre de la Santé, là on peut regarder, j'ai les papiers devant les yeux, tu as les papiers devant les yeux, tu peux regarder quand elle est sur le site du ministère de la Santé maintenant, eh ben ces 12 années où elle était au service de l'industrie pharmaceutique, eh bien ça disparaît. On a plein de choses dans sa biographie sur le site du ministère de la Santé. On sait que les deux parents de Roselyne Bachelot étaient docteurs en chirurgie dentaire, qu'elle a approfondi ses recherches en spectrophotométrie infrarouge, qu'elle est même très balèze sur l'influence des atomes métalliques sur la liaison carbone-hydrogène dans les molécules complexes. Tout ça, on le sait, mais n'apparaît plus ni le laboratoire ICI Pharma, ni le laboratoire Sogi Pharm. Donc je me suis dit, bon bah on va appeler pour voir comment ça se fait que ces 12 années ont disparu. On va appeler là maintenant le ministère de la Santé pour savoir ce qu'a fait Roselyne Bachelot exactement pour l'industrie pharmaceutique durant ces 12 années.
Santé, sport, bonjour.
Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le service de presse, s'il vous plaît?
De quel ministère?
La Santé.
Oui, patientez.
Service presse d'Roselyne Bachelot, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis François Ruffin de France Inter.
Oui.
J'appelais au sujet du parcours de Roselyne Bachelot au sein des laboratoires pharmaceutiques.
Oui, alors attendez, je vais voir si on peut vous prendre. Ne quittez pas.
Décourtez votre attente.
Allô?
Oui, bonjour madame. Et je voulais avoir des précisions concernant le parcours de Roselyne Bachelot au sein des laboratoires pharmaceutiques. Elle a bien été déléguée à l'information médicale au sein du laboratoire ICI Pharma de 69 à 76.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de m'envoyer un mail, s'il vous plaît?
D'accord.
D'accord?
Oui, très bien. Je vous envoie ça tout de suite alors.
D'accord.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors voilà, bon écoutez, ça c'est les manies de François Ruffin, persécuter les ministres, persécuter des gens qui se dévouent pour la cause publique. J'espère qu'il n'aura aucune réponse d'ici à 16h. Notre sujet du jour, c'est les professionnels de l'influence, ceux qui font que nous mangeons ce que nous mangeons et que nous gobons ce que nous gobons. Je parle des médicaments. Voici Roger Langlais, qui est auteur d'une enquête, il y a passé 10 ans, ce monsieur, sur le lobbying de l'industrie pharmaceutique, et son ouvrage s'appelle « Lobbying et santé » ou « Comment certains industriels font pression contre l'intérêt général ». Pas de parano, pas de théorie du complot, Roger Langlais.
Pour vous donner une idée, hein, au moins un concept, on va dire, sur l'importance économique des labos pharmaceutiques. En écrivant, en préparant mon enquête sur les labos pharmaceutiques, j'ai été invité à Matignon. Donc c'était il y a déjà quelques années, hein, puisque j'enquête pas, c'est pas depuis hier cette enquête. On m'a invité à déjeuner et on m'a expliqué, en gros, que c'était très sympa ce que je faisais sur les labos. Alors bon, bah, je vais pas donner de nom précis, mais enfin c'était vraiment au plus haut niveau, quoi, hein, auprès du Premier ministre. Donc le déjeuner était très sympa et au passage, on m'a simplement rappelé que en enquêtant sur les labos pharmaceutiques, ce qui était très courageux et très sympathique, je m'attaquais à la montagne d'argent, Dixit. J'ouvre les guillemets, à la montagne d'argent sur laquelle nous sommes tous assis, à droite comme à gauche. Aujourd'hui, tout simplement, les lobbyistes doivent avoir une approche des politiques plus individuelles. Et un de ces systèmes, c'est le pantouflage intense. On peut aujourd'hui parler de porte pivotante plutôt, qui pivote très vite, c'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient entre la fonction publique, type ministre, etc., et la vie au sein des directions d'entreprise.
Des va-et-vient de personnel entre la fonction publique, entre le gouvernement et les industries pharmaceutiques, c'est ça ?
Absolument, et bien évidemment, au service des industriels et non pas de l'État. Et je rappelle que Nicolas Sarkozy, en 2007, une des premières mesures, ça a été de réduire le temps d'interdiction entre l'exercice d'une fonction publique et le pantouflage dans la vie privée. Ça a été réduit de 5 ans à 3 ans, c'est-à-dire qu'on est en train de banaliser ce système de porte pivotante qui permet en gros aux industries d'obtenir à peu près ce qu'ils veulent des grands représentants de l'État. C'est vrai qu'on le voit avec systématiquement aujourd'hui les ministres qui succèdent. Donc la dernière en date, Roselyne Bachelot, était chargée des relations publiques. C'est une des dénominations des lobbyistes. Hein. C'est un titre qui avait été inventé par Édouard Bernays, un des fondateurs du lobbying, qui disait on hésitait entre le mot propagandisme, etc., mais ça la foutait mal, donc on avait inventé tout simplement cette expression de relations publiques. Bon, donc Roselyne Bachelot a exercé cette activité pour le compte du groupe pharmaceutique Soggy Pharm, qui appartenait d'ailleurs à ses parents. Elle a été aussi visiteur médical d'autres labos pharmaceutiques. Elle se retrouve ministre de la Santé. Bien évidemment, c'est pas sain, hein, puisque la ministre elle-même est dans une situation qu'on peut considérer comme douteuse.
C'est un grand classique des campagnes de vaccination, la ministre de la Santé piquée devant les caméras.
Leparisien.fr.
Roselyne Bachelot sait que les trois quarts des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner.
12 novembre 2009.
Même si aucun effet indésirable sérieux n'a été détecté auprès des personnels de santé vaccinés en premier.
Cette grippe, elle présente des formes qui peuvent être très très graves.
Roselyne Bachelot.
Il y a aujourd'hui 25 personnes qui sont par exemple hospitalisées dans les hôpitaux de Paris avec 10 petits-enfants qui présentent des formes extrêmement graves, avec leurs poumons qui sont détruits, qui sont attaqués par le virus AH1N1.
Une dizaine de centres ont ouvert dans chaque département, souvent dans des gymnases ou des salles des fêtes. Une piqûre aujourd'hui, une deuxième dans 3 semaines.
On se concentre aujourd'hui sur cette vaccination massive en se demandant donc si finalement elle est justifiée dans son ampleur, notamment dans les 94 millions de doses qui ont été achetées, le coût, etc.
Le coût qui avoisine qui est 900 millions, enfin
oui,
800 millions d'euros.
1 milliard d'euros en fait, hein, avec les coûts annexes qu'on ne calcule même pas, enfin bref. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que les campagnes de vaccination massive injustifiées, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de plusieurs décennies. Donc les laboratoires pharmaceutiques font toujours du lobbying pour que les campagnes de vaccination soient massives. Ce qui, globalement, est un contresens en termes de santé publique, puisque c'est beaucoup plus coûteux et même inefficace par rapport à ce que pourraient être des campagnes de vaccination ciblées. C'est-à-dire où on repère les groupes à risque, on les vaccine. Et là, à ce moment-là, aussi bien en termes de transmission que de protection des personnes qui, elles, sont vraiment susceptibles d'attraper le virus ou la maladie, donc à ce moment-là, sont vraiment protégées. Alors évidemment, ça représente beaucoup moins d'argent pour les laboratoires pharmaceutiques. Or, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que les experts qui l'ont préconisé donc sont financés par l'industrie pharmaceutique.
Est-ce que on peut parler du professeur Lina ?
Oui, alors donc c'est ce fameux organisme là, le GEIG, enfin GEIG,
le groupe
d'expertise et d'information sur la grippe. C'est un organisme financé complètement par les laboratoires pharmaceutiques. Bon, donc jugé parti dans cette affaire. Ce qui est troublant, c'est que le ministère de la Santé se positionne par rapport aux opinions émises par ce groupe d'experts, entre guillemets. Dans cette affaire, on peut se demander si les groupes de travail en question ont su résister, puisqu'ils ont préconisé manifestement des mesures qui étaient très favorables aux laboratoires pharmaceutiques, et donc peut-être trop, peut-être beaucoup trop.
Stop au virus de la grippe.
La grippe A, H1N1, n'est pas une maladie anodine. Elle peut avoir des conséquences graves. Nous pouvons tous faire quelque chose pour en limiter la propagation. Contre la grippe, la meilleure protection pour soi, pour son entourage, pour les plus fragiles, c'est la vaccination. Vous pourrez vous faire vacciner dès que vous aurez reçu par courrier un bon de vaccination. C'était un message du ministère de la Santé et de l'INPES.
Alors aujourd'hui, l'agence du médicament, donc on appelle l'AFSAPS, l'agence française de sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé, repose à 80% sur les financements des laboratoires pharmaceutiques.
Parce que c'est elle qui, en France, c'est l'agence qui donne les autorisations de mise sur le marché.
Donc on peut dire que la situation, c'est que les laboratoires pharmaceutiques sont jugés partis dans cette histoire. Autrement dit, le contrôler se contrôle lui-même, à travers donc une institution qui n'est pas indépendante et qui, sur le plan financier, donc dépend à 80% des laboratoires, c'est-à-dire qu'en gros, plus l'agence autorise de médicaments, et plus son budget grossit.
L'AFSAP, plus elle va autoriser de médicaments, plus les labos vont lui donner de l'argent.
Absolument.
Directement, enfin...
Directement, alors c'est tout le problème. La Cour des comptes, d'ailleurs, avait essayé d'attirer l'attention des autorités politiques sur le sujet.
C'était en quelle année, à peu près?
C'est même régulier, parce que c'était en 2005, 2007. Vous voyez, c'est très, très récent. Le fonctionnement de l'agence reposait, il y a encore quelques années, en 2006, à 50% sur les versements des labos. Et aujourd'hui, on en est déjà à 80%, c'est-à-dire la quasi-totalité du budget de l'agence. Et il faudrait, d'une façon toute simple, que cet argent versé par le laboratoire aille dans les caisses de l'État, mais que le budget de l'AFSAPS ne soit pas dépendant de ces versements des labos. Bon, c'est fondamental, normalement, c'est même inscrit dans la Constitution. Voilà.
Service de presse de Roselyne Bachelot, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que Roselyne Bachelot a bien été déléguée à l'information médicale au sein du laboratoire ICI Pharma pendant cette année de 69 à 76?
Oula, attendez, ne quittez pas. Écoutez, non, à mon niveau, je n'ai pas cette information. Vous voulez que je demande à la conseillère comme est presse de vous rappeler?
Volontiers, oui.
Sur ce sujet?
Je vous remercie beaucoup.
De rien,
au revoir.
Ah, il s'acharne, hein, les reporters de là-bas, si j'y suis, sur cette pauvre Madame Bachelot. Continuons à essayer de comprendre comment les professionnels de l'influence opèrent sur le monde politique. Alors ça, c'est pas facile de trouver des élus qui acceptent de nous dire, eh ben oui, comment opèrent ces multinationales de la pharmacie. Eh bien, on a rencontré une élue, Catherine Lemorton, députée de Haute-Garonne, membre de la commission des affaires sociales, qui a été pharmacienne pendant 23 ans et qui nous éclaire quelque peu.
Vous avez un désengagement de l'État sur son devoir d'expertise indépendante. Parce que c'est ça, la vraie expertise pour que nous, les députés, on puisse légiférer en toute indépendance, c'est d'avoir des expertises indépendantes, quelles que soient les lois votées. Or aujourd'hui, ce groupe dont on parle, ce groupe de lobby qui est l'industrie pharmaceutique, se substitue à l'expertise indépendante en disant « c'est nous qui avons raison ». Nous, pour faire la loi, on vous dit que c'est nous qui avons raison. Donc, on nous amène des expertises clés en main, qui vont forcément dans leurs intérêts. Je dis pas qu'ils négligent la santé publique. Mais enfin, quand ils vous invitent, c'est pour vendre leur insuline ou pour vendre... Enfin, je dis insuline, je peux dire un autre produit, mais c'est pour vendre leur produit. Alors, vous avez beaucoup d'invitations où il y a un labo seul qui invite. Enfin, qui invite, on suppose, puisqu'il y a son seul logo. Et c'est quand même toujours les mêmes qu'on retrouve. Hein. Pfizer, j'ai eu Roche. Après, vous avez, par exemple, leur autre association qui s'appelle les laboratoires de recherche, le LIR. Hein. Hein, c'est toute la division des laboratoires qu'on a nommés, mais c'est leur division recherche. Bon, ce sont, vous voyez, des invitations tout à fait en bonne et due forme. Hein, Là, on a les valeurs ajoutées de la vaccination. Et là, c'est avec le soutien institutionnel du laboratoire.
Vite.
Voilà, quand ça vient d'un groupe économique et financier, dire que c'est un soutien institutionnel. Moi, quand je vois une invitation avec un soutien institutionnel, j'ai plutôt envie de voir le nom d'un ministre, d'un secrétaire d'État, d'une autorité sanitaire, puisque c'est la santé en la matière. Voilà.
Et là, on a à l'intérieur, donc évidemment, des chercheurs, des professeurs qui interviennent. C'est juste avant que ne soit révisée une loi. On vous invite à dîner dans un hôtel de Paris.
Absolument. Et alors là, là, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Les entreprises du médicament, le cercle de réflexion santé créé en 2007, sous l'égide du président des entreprises du médicament, vous invite à la questure de l'Assemblée nationale. Donc là, 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 ça dépasse l'entendement. On est dans, carrément dans les murs de l'Assemblée nationale. On n'est plus dans un hôtel à l'extérieur. Où le thème était les biotechnologies, deux points, croissance et emploi de demain. C'est un enjeu, les biotechnologies. Mais que ce soit organisé par les entreprises du médicament à l'intérieur de l'Assemblée nationale, à la questure, ben moi, ça me pose un problème éthique. Écoutez, c'est un peu, voilà, on va me trouver jusqu'au boutiste, mais ça me gêne.
Donc c'était avec Christian Lajoux, qui est le président des syndicats des entreprises voilà. du médicament, et avec notamment un député aussi, puisque Claude Gatignol, sous réserve, député de la Manche, si était en tout cas sur le menu. Donc ça, j'imagine voilà. avec tout ça, vous pouvez ça. Manger gratuitement tous les jours de l'année,
on
quasiment.
Tous les jours, mais enfin bon, on a quand même quelques repas de payer. Hein. Maintenant, effectivement, vous êtes invité dans un grand restaurant où on vous chouchoute. Bah, peut-être que ça aide à prendre des décisions. J'exagère, je suis un peu provocatrice en disant ça. Mais moi, j'ai pas besoin d'aller dans un restaurant pour écouter ce qu'ils ont à me dire.
Est-ce que, justement, beaucoup d'élus ne le refusent pas et est-ce que ça se ressent lors des votes des textes de loi ou...
Ben, ça se ressent dans les textes de loi, c'est-à-dire qu'on voit certains amendements qui arrivent, et moi je vois bien qu'ils prennent leur source auprès de l'industrie. C'est évident.
Bon voilà, on est au gymnase Auguste Renoir, et Madame Roselyne Bachelot est en train d'arriver pour inaugurer le centre de vaccination, et la première vaccination contre la grippe, champ 1 an. Pardon, excusez-moi.
France Inter, c'est oui. bon, allez-y, allez-y.
Merci.
Allez-y.
Bonjour, on rentre dans le gymnase. On suit toujours derrière au pas de course la ministre entourée de ses conseillers, au centre de vaccination, et on rentre dans le gymnase. Et à droite, il y a surtout des barrières et il y a surtout beaucoup de journalistes avec des caméras, des appareils photos, des perches.
Reculez-vous un peu, Madame Bachelot.
Là, là, sur votre droite.
Reculez, Madame. Reculez-vous un peu qu'on vous voit tous, s'il vous plaît.
Ça y est, là, Roselyne Bachelot a commencé tout le parcours qu'il faut suivre pour se faire vacciner. Alors, on attend.
Elle arrive.
Elle revient vers nous. Elle se met juste à côté des paravents. Avec les infirmières, mais cette fois-ci, elle ne se met pas derrière les paravents, elle ne se cache pas pour se faire vacciner. Au contraire, elle se montre à tous les journalistes.
La ministre, vous le voyez, qui s'apprête à recevoir une piqûre d'un instant à l'autre, et ce, sans aucun stress, nous a-t-elle dit de sa part. Elle est très détendue.
Restez au micro de BFM.
Une autre dose, une autre dose.
Ah, là les questions me prennent. Je vais vite essayer de poser la mise. Il va falloir que je me faufile dedans. Il y a plein de perches de partout. Il ne faut pas que je me prenne dans la tête. Et je pense qu'il va falloir, à mon avis, hausser le ton parce que tout le monde hurle pour poser sa question.
Merci. Les centres de vaccination sont ouverts parfois uniquement deux jours par semaine. Ils sont ouverts à partir de midi. Est-ce que c'est pas un peu léger?
Alors, nous allons évidemment adapter les horaires des centres de vaccination au public. C'est évidemment un dispositif qu'on peut adapter selon la demande du public. Nous voulons adapter le mode de fonctionnement de ces centres au mode de vie de nos concitoyens.
Madame Bachelot, une réaction sur
Madame Bachelot.
Madame Bachelot, est-ce que c'est vrai que vous avez été porte-parole pendant 12 ans de deux laboratoires pharmaceutiques?
Oh, écoutez, c'est absolument. Écoutez, vraiment, cette accusation est absolument répugnante.
Mais c'est
pendant 6 ans, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique comme visiteuse médicale à 1000 francs par mois, comme boulot d'étudiant pendant 6 ans. C'est comme si vous disiez aux jeunes gens qui travaillent chez McDo à vendre des hamburgers qui sont à la solde de l'industrie agroalimentaire.
Elle n'a pas aimé. Hein.
Ça a cassé son enthousiasme.
Je ne suis pas sûr qu'elle est tempérée que ça.
Non, mais comme celle-là, l'info est lâchée, c'est bien.
Ouais, elle est partie, là.
Ah, à mon avis, ouais.
Par la porte de derrière.
Elle était vexée.
La dernière question, c'était...
elle a peur de...
Est-ce que vous ne seriez pas la solde
Des labos ?
Des labos, puisque... Et la réponse qu'elle a faite, elle a dit, attendez, pas plus que... moi, j'étais étudiant, je gagnais 1000 francs par mois pendant 4 ans.
Vous êtes journaliste ?
Oui.
Vous bossez à RTL ?
Ouais.
Et vous ne saviez pas qu'elle avait été...
Et c'est possible, mais bon, on n'a pas de preuves, et puis ce serait trop difficile de faire l'enquête.
Il ne faut pas enquêter trop loin, il faut aller dans le trombinoscope politique.
Voilà, oui.
Vous êtes journaliste ?
Oui, pour la société de presse.
La société de presse. Et vous saviez qu'elle avait été porte-parole du laboratoire pharmaceutique pendant 12 ans ?
Non, je savais pas, non. Effectivement, je savais pas du tout. Enfin, c'est vrai qu'après, on peut se poser des questions, quoi.
Vous allez le mentionner ou pas, vous pensez, dans vos papiers ?
C'est pas sûr. On verra après. Nous, comme c'est international, c'est vrai qu'à la limite, on préférait interviewer des patients, enfin des gens qui viennent se faire vacciner, plutôt que la ministre, au final, quoi. On voulait savoir pourquoi les gens viennent se faire vacciner.
Vous n'avez pas été augmenté depuis 6 ans. Vos collègues sont des buses. Votre supérieur hiérarchique vous terrorise. Votre poste risque d'être supprimé et vous êtes menacé de mutation dans une autre région hostile. Votre morale est donc au plus bas. Heureusement, pour vous, il y a la grippe A. Et oui, profitez de cette pandémie pour rester tranquillement chez vous. Comment la contracter ? C'est simple, en regardant ces quelques conseils.
Pour contracter la grippe A, rien de plus simple. Évitez de vous laver les mains et effectuez quelques gestes simples. Dans les transports en commun, commencez par lécher les sièges, puis lécher activement les poignées des portes, ainsi que les barres centrales où tout le monde s'agrippe. Au restaurant, quelqu'un éternue à côté de vous. Vite, humez l'air ambiant. Au moment d'aller aux toilettes, léchez d'emblée la poignée de la porte, puis la lunette des WC. Avec la langue, faites un tour complet du pourtour. Pour être bien sûr de votre coup, guettez un passant qui se mouche. Récupérez immédiatement son mouchoir en papier. Vous pouvez rentrer chez vous. Tout au long de votre périple, vous aurez également pris soin de sucer des pièces de monnaie. Attendez la période d'incubation de la grippe H1N1, qui est d'environ 2 jours. Ça y est, vous êtes malade. Fini les tracas du boulot grâce à vos 2 semaines d'arrêt maladie. Et même si vous n'avez pas attrapé la grippe A, quoi qu'il arrive, nous vous garantissons au moins la plus belle gastro de toute votre vie.
L'équipe de Groland Magazine présente toutes ses excuses auprès de ceux qui mangeaient en regardant ce reportage. Mais l'information prime.
Je m'appelle François Autain, je suis sénateur de Loire-Atlantique, membre de la commission des affaires sociales du Sénat, j'en suis même le secrétaire.
D'abord, quelque chose qui m'a interpellé, c'est que je crois savoir que vous avez rencontré Madame Roselyne Bachelot, non ?
Écoutez, tout le monde m'en parle, mais c'est vrai, je l'ai rencontré, mais dans des circonstances qui étaient liées à l'exercice de ma profession et de la sienne. Moi, j'étais médecin à l'époque, médecin généraliste, dans une petite commune de la banlieue nantaise, à Bouguenay. Et Madame Bachelot, alors, était représentante d'un laboratoire, le laboratoire AstraZeneca, dont elle était salariée, faisait son travail. Ce qui est tout à fait honorable, de la même façon que je faisais le mien. Elle représentait à l'époque un laboratoire pour me vanter les produits de ce laboratoire. Et je dois dire que d'ailleurs, Madame Bachelot à l'époque m'en avait parlé avec beaucoup de compétences, beaucoup de chaleur. Et c'est vrai, je ne suis pas étonné de la voir aujourd'hui assumer de si hautes fonctions.
Comment sont prises les décisions ? On a toujours l'impression que c'est un seul personnage qui a élaboré ça tout seul. Il s'appelle Bachelot, il s'appelle Sarkozy, et voilà. Bien sûr que non. Bien sûr que derrière ces décisions, il y a tout un travail, toute une élaboration, tout un tas de réunions, de conseils divers et d'experts qui interviennent. Mais ces experts sont de plus en plus nombreux à être des professionnels de l'influence, des lobbyistes qui agissent, on l'a vu avec le témoignage de Catherine Lemorton, députée de Haute-Garonne, membre de la commission des affaires sociales, à l'instant, et voici maintenant François Autain, qui est sénateur de Loire-Atlantique, secrétaire de la commission des affaires sociales au Sénat, qui est médecin généraliste de formation. Il a rendu notamment un rapport sur les autorisations de mise sur le marché et le suivi des médicaments, et il a montré les liens d'intérêt entre les experts de cette commission qui délivre les autorisations de médicaments et les laboratoires pharmaceutiques. François Autain.
Qu'est-ce que vous pensez justement, vous, de cette campagne de vaccination ?
Le syndrome canicule a joué. Hein. Donc, ils se sont couverts au maximum. Hein. Commander 94 millions de doses, c'est quand même... on est quand même les champions du monde de la commande. Hein. C'est nous qui avons commandé, proportionnellement à notre population, le plus grand nombre de doses. Hein. Certes, à une époque, on considérait qu'il en faudrait deux. Aujourd'hui, la confusion règne. Personne n'est capable de dire s'il en faut une ou deux. Il semblerait, d'après ce qu'a répondu la ministre à une question que je lui avais posée, qu'on serait fixé dans 3 semaines. Mais il ne faut pas non plus que ce débat tourne à une remise en cause de la vaccination. La vaccination a apporté par le passé les preuves de son efficacité. C'est grâce à elle que des maladies, des pandémies très très graves ont été complètement éradiquées. Il en reste bien sûr encore à éradiquer, mais je pense que la poliomyélite, il n'y en a plus. Mais il n'est pas nécessaire pour autant de commander dans la précipitation en signant des contrats très très avantageux pour les laboratoires.
Très avantageux,
c'est-à-dire que tous les risques sont pour celui qui commande et pas pour celui qui fournit. Hein. En cas d'effet indésirable, donc c'est le gouvernement qui en assume la responsabilité et le coût, donc c'est pas rien. Et en cas de non-respect des délais de livraison, il n'y a pas de pénalité de retard, vous voyez.
Service de presse de Roselyne Machaud, bonjour.
Oui, bonjour, c'est François Ruffin de France Inter.
Oui, sur Ruffin ?
Oui.
Voilà.
Bon.
Quand vous me posez la question de savoir ce que la ministre a fait entre 69 et 76, hein, alors elle a effectivement travaillé, hein, mais alors sachez que quand elle a travaillé, elle n'avait pas du tout un poste stratégique là-dedans. Vous voyez, on remonte à plusieurs décennies, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire ?
L'intitulé de son poste, c'est délégué à l'information médicale au sein du laboratoire ICI Pharma.
Le titre exact, enfin franchement, j'ai pas le titre exact. Regardez, elle me disait qu'elle, enfin, elle gagnait 1 000 francs. Enfin, oui, ça doit être 1 000 francs par mois. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'avait pas un poste où. Bon, ça c'est le premier point que je voulais vous dire. Concernant la deuxième date, entre 84 et 87, elle avait...
Alors moi je lis sur le CV qu'elle fournit quand elle est élue députée européenne, chargée des relations publiques chez Sogi Pharm de 84 à 89.
Elle travaillait sur ce labo, mais alors comme titre, enfin, vraiment encore une fois là vraiment, elle avait... c'était un petit poste, quoi. Elle a ouvert avec son mari un labo. Enfin, vous voyez.
Elle tenait elle-même un laboratoire pharmaceutique, alors.
Mais vous savez, c'était pas un laboratoire pharmaceutique comme vous l'entendez. Ça n'avait rien à voir. Hein. Elle était vraiment.
C'était un laboratoire pharmaceutique, mais pas vraiment un laboratoire pharmaceutique.
Ben oui, non, au sens où vous l'entendez, parce que là actuellement, il y a toute une polémique sur tous ces labos, enfin, qui sont des grosses firmes. À l'époque, ça n'avait rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle occupait.
Elle le fait d'après les dates que j'ai moi, en même temps qu'elle commence à être députée.
Oui.
Ensuite, on nous dit que d'après son CV, hein, au même moment, elle travaille au RPR, notamment sur le thème du médicament.
Là, on a l'impression qu'on décortique tout son passé. Enfin, j'ai beau chercher et je me dis où est le lézard, quoi. Voilà.
D'une part, moi, je pense que le plus simple, ça serait, et pour moi et pour le ministère, ça serait qu'il y ait une interview avec Mme Bachelot, qu'elle s'explique en toute transparence. Elle l'explique, ce qu'elle a fait dans les labos pharmaceutiques à ces deux périodes de sa vie. C'est public, on n'en parle plus.
Oui. Mais Monsieur Ruffin, reconnaissez qu'on peut exercer des fonctions dans sa vie. Vous voyez, quand là vous dites que bon, on dit qu'elle a travaillé de telle date à telle date dans un labo, etc. On peut avoir exercé ses fonctions. Pour autant, est-ce qu'on peut systématiquement remettre en cause l'éthique, la déontologie d'une personne.
Est-ce que vous m'avez entendu à un moment mettre en cause la déontologie irréprochable de Madame Bachelot ?
Non. Voilà.
Ce que je trouve regrettable, c'est que ça comprend quand même une dizaine d'années de sa vie.
D'accord, j'ai parfaitement compris le...
Et au moment où elle entre au ministère, on l'élimine de la biographie officielle.
Moi, par exemple, je ferai la bio de quelqu'un. Dupont va faire la même bio. On la fera pas de la même façon, et vous le savez. Et ça n'a pas du tout dans le but de cacher comme tout le monde. Hein, je vous assure.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible quand vous voyez qu'elle le met en avant dans ses biographies précédentes, quand elle va au Parlement européen, quand elle est élue conseillère régionale et ainsi de suite, que quand elle est députée. Et là, au moment où elle est ministre, on sait que ses parents sont docteurs en chirurgie dentaire, qu'elle est spécialiste en recherche en spectrophotométrie infrarouge, sur les liaisons carbone-hydrogène dans les molécules complexes, qu'on a son CV politique intégral, et qu'il y a 10 années de sa vie qui, là, paf, passe à la trappe.
Là, oui.
Comment ça se fait qu'on fait sauter 10 années de sa biographie quand elle devient ministre de la Santé, quoi. Ce souci de transparence.
D'accord. Alors, si c'est le but poursuivi, je trouve ça vraiment tout à fait à votre honneur. Donc, voilà.
Merci. Au revoir. Allez,
bonne soirée, au revoir.
Voilà ce qu'on pouvait entendre dans la basse, si j'y suis, le 24 novembre dernier. Un petit peu à contre-courant, la basse, si j'y suis. Roger Lenglet, on vous retrouve aujourd'hui. Vous étiez présent dans cette émission du 24 novembre. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Lobbying et Santé, ou comment certains industriels font pression contre l'intérêt général. Évidemment, vous avez suivi toute cette affaire de très près. Vos conclusions et vos observations aujourd'hui.
Alors, la première observation pour moi, c'est que, puisqu'on est dans la situation d'une demande de mission d'information parlementaire sur les raisons qui ont conduit à la décision de cette vaccination massive qui manifestement s'imposait pas, cette observation pour moi, elle doit aussi conduire à s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'OMS a lui-même préconisé une campagne de vaccination massive et s'est félicité notamment de la politique française en la matière. Je pense qu'il est temps de clarifier les relations entre non seulement les ministres et les grandes firmes qui font du lobbying, on le sait en permanence, mais aussi les relations que peut avoir l'OMS avec ces grandes firmes pharmaceutiques.
C'est-à-dire que vous pensez que le gouvernement a calé sa politique en la matière d'après l'OMS, qui effectivement annonçait pandémie, risque majeur, etc. Et vous soupçonnez, et peut-être un peu plus, l'OMS d'être la proie des grands lobbies pharmaceutiques, en gros. Je caricature ?
Non, c'est pas du tout une caricature, puisque donc c'est très important, parce qu'en fait, l'OMS, quand même, est l'autorité sur laquelle s'appuient les gouvernements aujourd'hui pour fonder leur campagne de vaccination. Donc si l'OMS fait l'objet d'un lobbying intense des laboratoires pharmaceutiques, bien évidemment, c'est fondamentalement à ça qu'il faut s'attaquer, puisqu'ensuite, donc ça détermine quand même des politiques mondiales. Et l'OMS, ce serait pas la première fois qu'elle montrerait une grande vulnérabilité au lobby. Je vous rappelle que ça avait fait l'objet d'un rapport, notamment concernant les cigarettiers, qui avaient fait un lobbying intense et obtenu des positions pour le moins ambiguës. Et moi, je l'ai vu aussi sur d'autres affaires, comme le Mercure, par exemple, où l'OMS se laissait dicter ses propres rapports par les corporations professionnelles concernées. Donc là, il y a manifestement l'urgence et la nécessité d'imposer une déclaration des liens d'intérêt et des enquêtes quand des politiques comme ça sont lancées.
Oui, mais alors est-ce que ça revient à dire que, en somme, notre gouvernement a été victime de l'OMS ? Est-ce que ce serait pas une victime un petit peu consentante ?
Alors, c'est manifestement une victime très consentante, et dans d'autres affaires aussi, on a vu les autorités sanitaires s'appuyer sur les décisions de l'OMS. C'est une façon d'externaliser finalement la responsabilité du gouvernement, donc là je ne l'exonère pas du tout, et il serait temps d'en venir à une obligation de déclaration des ministres, qui seraient donc obligés de déclarer leurs liens d'intérêt passés avec des firmes qui pourraient profiter des marchés publics couverts par leur propre ministère.
Vous pensez à Mme Bachelot, en l'occurrence ?
Bien sûr, je pense à Mme Bachelot, puisqu'aujourd'hui, la suspicion est dans tous les médias, et elle s'appuie sur ce que vous avez pu mettre en exergue, c'est-à-dire la disparition de son CV, de longues années de travail au service des firmes pharmaceutiques.
Roger Langlais, vous avez suivi toute cette affaire de près. Quel est votre sentiment sur la façon dont les médias ont traité ce sujet? Les médias ont été accusés d'avoir été très anxiogènes. Quel est votre sentiment?
Alors, les médias, c'est une notion très globale. Hein. Dedans, on sait qu'il y a des journalistes qui n'ont été que des écotiers, des reproducteurs, des communiqués de presse de l'industrie pharmaceutique et du ministère de la Santé, donc qui ont été très anxiogènes, qui tous les jours nous donnaient des chiffres, des nouveaux morts, etc., donc qui étaient vraiment destinés à nous faire vacciner au plus vite. Et puis, de l'autre côté, quand même, historiquement, c'est la première fois que j'observe autant de journalistes dénonçant une situation de lobbying, situation très malsaine pour les décisions politiques. Et ça me paraît être quand même une illustration importante, historiquement, d'une prise de conscience, en fait, des liens qui ne sont pas suffisamment clairs entre les membres des gouvernements et le monde des industries privées.
C'était un reportage de Pascal Pascariello et François Ruffin, première diffusion le 24 novembre dernier. Merci à Martin Vinclair, Marc Girard et Roger Langlais, ainsi qu'à François Autain de France Bleu Picardie. À lire Lobbying et Santé, ou Comment certains industriels font pression contre l'intérêt général, de Roger Langlais, publié par les éditions Pascal en octobre 2009. Et puis également Alerte grippale, Comprendre et choisir, de Marc Girard, paru également en octobre 2009 chez Dangle. Sachez que toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Aveline Carmois et Gilles Gaillard, à la réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
De plus en plus de gagnants loto, bonjour.
Je suis célibataire et j'ai joué pour le tirage de ce mercredi, le jackpot de 10 millions. Ah. Alors j'anticipe un peu.
Très bien.
Je voudrais savoir si parmi vos gagnants, il n'y aurait pas un grand brun avec les yeux bleu vert qui aimerait les promenades en raquette, le folklore breton et les dimanches avec ma mère. Enfin, s'il avait gagné un mercredi, ça nous ferait tout de suite un point commun.
Il faudrait être plus précise.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
Un grand brun.
Alors dépêchez-vous, ce mercredi, le jackpot est de 10 millions d'euros. Montant à partager entre les gagnants du premier rang. FDJ.
Vous écoutez France Inter, il est 16h, vous retrouvez Angélique Bouin pour les informations.
Malgré l'opposition du rectorat et du ministère de l'Éducation nationale, les premiers passes contraception ont été délivrés par une infirmière scolaire en Poitou-Charentes. C'est ce qu'annonce Ségolène Royal, la présidente de la région qui a lancé ce projet controversé. Ces passes sont destinées aux jeunes filles mineures pour lutter contre les grossesses précoces et réduire les avortements. Ils se présentent un peu comme un carnet de chèques avec des tickets pour une visite chez un médecin ou chez un gynécologue, ainsi qu'un bon d'échange en pharmacie pour obtenir un moyen contraceptif. Le Paris vert de Bertrand Delanoë, en présentant ses vœux, le maire de Paris s'est revendiqué comme un écologiste de l'action, un écologiste de la gestion, pour des résultats. Il promet pour 2010 la création d'îlots sécurisés dans Paris pour les piétons et les cyclistes, de nouveaux axes cyclables pour relier notamment les banlieues proches, et une reconquête pour les Parisiens des voies sur berge. Le vert Denis Baupin, ainsi que plusieurs élus, se sont déclarés surpris de cette envolée écologiste. Quatre députés centristes ont déposé comme promis une proposition de loi pour réclamer une commission d'enquête parlementaire sur la grippe A. Leur groupe décidera mardi prochain s'il utilise son droit de tirage pour la demander officiellement. En principe, la demande de commission d'enquête ne peut ensuite être refusée que si les 3/5 des députés s'y opposent. Notons que Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, et Jean-François Copé, le patron du groupe UMP, ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas contre. Le MEDEF demande un report de l'entrée en vigueur de la taxe carbone prévue début juillet et demande qu'elle soit compensée pour les entreprises comme elle doit l'être pour les particuliers. Dans un communiqué, l'organisation patronale dénonce également le fait que cette taxe constituera, dit-elle, une double peine pour le millier d'entreprises déjà soumises au système de quotas européens d'émissions. Les vœux de Nicolas Sarkozy aux forces économiques du pays. Dans son discours, le chef de l'État a annoncé notamment qu'il mettra en 2010 au centre des débats internationaux la question de la disparité entre le dollar et l'euro. Un problème absolument considérable, a-t-il dit, pour la compétitivité de nos entreprises. Des affrontements entre Palestiniens et forces égyptiennes ont fait une victime à la frontière entre Gaza et l'Égypte, un jeune soldat égyptien de 21 ans tué par des tirs palestiniens. Les incidents ont eu lieu à l'issue d'une manifestation à l'appel du mouvement Hamas qui dénonce la construction d'une barrière souterraine, barrière destinée à interdire le creusement de tunnels de contrebande. Plusieurs Palestiniens ont également été blessés. En France, l'alerte orange à la neige est maintenue dans 10 départements cet après-midi, cette nuit et jusqu'à demain, jeudi. Sont concernées les régions Haute et Basse Normandie, les départements bretons des Côtes d'Armor, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, ainsi que la Mayenne et la Sarthe. Plusieurs trains Eurostar ont par ailleurs été annulés. La compagnie demande à ses clients de repousser, si possible, leur voyage. La Bretagne reste ce soir en alerte rouge en raison de risques réels de coupures électriques. Les habitants sont invités à modérer leur consommation, notamment à partir de 17h ce soir et jusqu'à 20h. La neige qui perturbe également certains rendez-vous sportifs. La rencontre de football Amiens-Auxerre prévue vendredi est annulée.
Du lundi au vendredi, sur France Inter.
Bienvenue sur France Inter.
Vous écoutez donc France Inter.
Bienvenue sur France Inter.
Bonjour à tous.
La matinale de Nicolas Demorand.
Jusque-là, je pense qu'on est d'accord.
Désormais,
dites-le nous franchement.
Nicolas Demorand vous donne rendez-vous le matin à partir de 6h30.
On est bien réveillé là.
Yes. Oui, moi aussi.
Désormais, retrouvez la matinale de Nicolas Demorand.
Mais regardez la différence.
Tous les jours de la semaine, à partir de 6h30.
France Inter et la MC93 à Bobigny présentent du 9 janvier au 2 février La Noce de Bertolt Brecht, mise en scène par Patrick Pinault. Un repas de noces où l'on rit, on chante, on danse, et pourtant tout tourne au vinaigre, car les hommes ont le chic pour se gâcher l'existence. Un spectacle drôle et ironique. Retrouvez La Noce dans les émissions de France Inter.
France Inter,
la différence.
16h04, le moment pour nous de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid, la neige, oui, la neige, même à Saint-Malo, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. Et la neige a été présente évidemment dans beaucoup de musique russe, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une exception quand elle est là. Le beau manteau recouvre le pays de long en large et Tchaïkovski dans Casse-Noisette a tracé une délicieuse valse des flocons de neige qui devient parfois un petit peu stressante, un peu intense parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à croire qu'il y a une forme de cauchemar là-dedans. Il n'y a pas que cette neige si charmante avec laquelle on fait des bons hommes et puis on peut lancer des boules pas trop dures, je rappelle quand même. Et non, non, il y a quelque chose de plus grave. Il faut dire que c'est le rêve d'une petite fille qui a bien des ennuis à travers ses rêves uniquement, parce que quand elle va se réveiller, elle va voir qu'elle n'est entourée que d'amour. Tchaïkovski.